48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et voilà un numéro spécial sur ce nouveau magazine, le numéro 104, un numéro spécial sur l'économie, l'entreprise et même la création d'entreprise avec, donc pour animer cette émission, Fredo. Salut Fredo.
Salut Nico.
Ça fait plaisir de te revoir.
Bah Fredo. Ouais, ça faisait super longtemps que j'étais pas venu, j'étais plus invité, et j'avais dû dire trop de bêtises,
tout l'été,
trop de cochonneries à la radio et donc du coup j'étais privé. Et là, alors, comme ça devient sérieux, merci de m'inviter.
Ouais, alors on va faire appel à tes compétences aujourd'hui, puisque un numéro spécial sur l'économie. On va parler donc d'un événement qui va avoir lieu très bientôt avec Lozère Développement, la start-up est dans le pré, avec donc Vincent Gattin. Bonjour.
Bonjour.
On aura aussi donc en deuxième partie des entrepreneurs et des entreprises innovantes avec Absolute Doux, donc Ludovic Toussaint qui est parmi nous et monsieur Deloustal aussi qui est directeur de l'association pour la formation et l'insertion de personnes handicapées et cofondateur aussi d'Absolute Doux, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà, bonjour. Bonjour. Bonjour, voilà, je monte les micros qui n'étaient pas montés. Et ensuite, nous aurons une entreprise aussi très très innovante qui vient de changer de nom, qui s'appelle Hobby Street, avec Sandrine Planchon. Bonjour Sandrine.
Bonjour, bonjour.
Bon, on va attaquer tout de suite Lozère Développement. Donc Lozère Développement, qu'est-ce que c'est en deux mots? Et puis là, vous relancez un programme, un projet qui s'appelle La Startup est dans le pré, qui a eu un succès, un beau succès, je pense, l'année dernière, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait. Donc du coup, Lozère Développement, c'est l'agence de développement économique de la Lozère. On travaille sur deux axes. On fait à la fois de la prospection des entreprises extérieures au département, et puis aussi on fait de l'accompagnement à l'innovation. Et voilà, donc du coup, ces deux éléments se rejoignent dans la start-up et dans le pré. C'est un concours de start-up avec pour objectif de faire rayonner un petit peu le territoire et puis d'attirer des start-up sur le département. Et puis voilà, accompagner aussi les start-up qu'on a sur place et puis essayer de les booster, les motiver sur un week-end.
Alors, start-up et dans le pré, effectivement, la Lozère forcément s'impose comme territoire où créer son entreprise en ruralité a certainement des spécificités. Est-ce que c'est ce que vous mettez en avant? Effectivement, je crois qu'il y a deux ans, on avait déjà eu une première session qui avait bien fonctionné. Donc là, je crois que vous repartez d'autant plus fort, avec notamment, je crois, le vendredi, un temps fort pour lancer ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur... comment est-ce qu'il y a une spécificité à entreprendre en ruralité et du coup le bonheur?
Ouais, tout à fait. Bah du coup la start-up est dans le pré, c'est un concept qui a été inventé à Lunel. Bon, là-bas, il y avait Via Innova, la pépinière, avait besoin d'émerger entre Montpellier et Nîmes. Et du coup, nous, après, on s'est dit, mais il faudrait faire ça dans un vrai pré et pas dans le périurbain. Et du coup, on a organisé l'édition 2013 qui a été un joli succès. Et justement, ça a été un succès aussi parce qu'on s'est basé sur pas sur les start-up week-end habituels. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de valoriser forcément l'idée, mais plus la complémentarité au sein des équipes. Et voilà, essayer de pousser un peu les porteurs de projets qui sont leaders un petit peu à s'associer avec des gens qui sont plus collaboratifs, etc. Donc, et voilà, en partant du postulat que pour être heureux, il faut former une équipe complémentaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'avec Human Booster, qui est une entreprise de conseil RH à Clermont-Ferrand, et Visionary, qui est l'agence qui porte la start-up et dans le pré, on organise un sommet du bonheur le vendredi, où le but du jeu, c'est de voir un peu comment le bonheur peut participer à la réussite d'un projet d'entreprise.
Mais en fait, c'est quoi? C'est d'abord, c'est un concours, la start-up est dans le pré, c'est ça?
Voilà, c'est un concours, mais c'est un concours où on arrive à faire venir quand même beaucoup de monde. On fait venir plus de 150 personnes et tout l'écosystème. Du coup, on s'est dit, voilà, quitte à avoir tout ce monde-là en Lozère, autant en profiter et faire un temps de réflexion un petit peu en amont sur le bonheur pour thématiser le week-end. Du coup, il y a une espèce de congrès sur le bonheur qui s'appelle le Sommet du Bonheur le vendredi. Et après, il y a vraiment le concours avec l'entrée des candidats. Et là, on les pousse un petit peu à se mettre en équipe et puis à travailler ensemble sur des projets et voilà, pour essayer de les pousser le plus loin possible.
Sachant que tu le précises, c'est un concours, donc il y aura les meilleurs. Enfin, il y aura effectivement des startups qui sortiront peut-être du lot, mais en mode. Alors, est-ce que c'est ça la mode rurale? C'est la dimension vraiment collaborative où, si j'ai bien compris, vous allez proposer à des créateurs de s'associer, de mettre en lien leurs compétences pour justement aboutir à un projet collectif et aller peut-être amener le projet encore plus loin que ce qu'il avait été imaginé à son départ. Alors peut-être que Sandrine d'ailleurs pourra témoigner, parce que je crois qu'elle faisait partie de ces structures
de la première édition
oui. Et qui justement a pu bénéficier de cette dimension collaborative et a fait, je crois, des rencontres à ce moment-là.
Ouais, exactement. Moi, je suis arrivée à la Startup et dans le Pré, donc sur la première édition, j'avais aucun contact avec l'écosystème entrepreneurial, ni lausérien, ni au niveau de la région. Ça a été la première entrée dans ce monde-là. Et en effet, entre les coachs et les candidats qui se joignent à nous sur nos projets, c'est de très belles rencontres, un très gros dynamisme. Et c'est ce qui m'a permis, moi, notamment avec Obistreet, de démarrer avec une équipe. Qu'elle reste ou qu'elle reste pas par la suite, ça fait au moins des premières personnes qui s'accrochent au projet et qui sont là pour te filer un coup de main. Des idées nouvelles, parce qu'on s'enlise facilement quand on crée aussi. Et les coachs qui sont à disposition tout le week-end pour nous accompagner et nous faire avancer.
Après aussi, c'est vrai que par rapport à la spécificité du prêt, l'objectif c'est pas forcément d'accompagner des entreprises innovantes. C'est pas le but, c'est pas de faire des entreprises spécialités rurales. C'est plutôt de se dire toutes les entreprises ont le droit aussi de bénéficier à un moment donné de l'accompagnement qu'ont les startups. Et donc du coup, on accompagne pendant ce concours des entreprises classiques, n'importe quel porteur de projet, un artisan, un commerçant qui a un peu envie de tester une idée. Et ben on va essayer de le pousser et de lui mettre en œuvre les méthodes d'accélération des startups pour qu'il essaie un peu de changer de référentiel, pour essayer de booster son projet et puis se dire voilà, si moi j'étais peut-être en ville, j'essaierais d'aller vers un projet qui emploie, etc. Donc du coup, on essaie un petit peu de les faire passer ce seuil de réflexion, en tout cas sur le concours. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est pas forcément des startups, mais par contre, on va les mettre en mode startup, c'est-à-dire que n'importe quel artisan sera coaché comme s'il était une entreprise innovante.
Mais est-ce qu'il faut être une entreprise déjà constituée, ou est-ce qu'on peut venir en tant que, on dirait, candidat libre, et avec l'idée de, avec une idée en tête et pas forcément avoir créé déjà son entreprise?
Oui, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Ce qui est important, justement, quand on parlait du mélange, c'est ce mélange. Donc, on va avoir des entreprises qui sont déjà constituées. On va avoir des porteurs de projets qui sont juste, finalement, quelqu'un qui a une idée. On va avoir aussi d'autres gens qui sont curieux de l'entrepreneuriat, qui se disent, à quoi ça ressemble. Et du coup, ils vont se joindre à une équipe. Je pense que, Sandrine, dans ton équipe, à l'époque, toi, tu avais une idée de projet.
Moi, j'avais le projet et personne d'autre avait pitché. Les trois autres qui m'ont rejoint n'avaient pas forcément d'idée et ils étaient là juste pour travailler sur un week-end, sur une idée autre, n'importe laquelle. Ils avaient eu un coup de cœur et ils m'avaient rejoint. Voilà.
Des compétences qu'on met au profit d'un projet spécifique avec un coup de cœur qu'on découvre
exactement.
À ce moment-là.
Ouais.
Ludo d'Absolutewood.
Souvent, on associe le mot start-up à entreprise du numérique et ce n'est pas forcément justifié. C'est ce que disait Vincent, on peut très bien innover et avoir des modèles d'entreprise qui ont besoin de démarrer rapidement sans pour autant être dans le modèle du numérique. C'est pour ça que la start-up est dans le prix, ce n'est pas non plus réservé. Je pense qu'à des entreprises qui ont des projets en lien avec le web, le cloud, le numérique.
Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Du coup, là, dans les candidats...
Mais pourquoi alors avoir gardé start-up?
Mais parce que c'est
parce que ça sonne bien, c'est ça? Ça fait brancher?
Ouais, il y a le côté brancher, ça, c'est obligatoire. Hein, c'est de la com. Non, mais il y a le côté...
La provoque de notre ami Nico, parce que marketing n'est pas toujours
start-up
rendez-vous.
Start-up est dans le pré, ça fait l'amour et dans le pré. Bon, ça joue.
Ça, c'est pour toi, Nico. Voilà. Tu sais que tout le monde ne fait pas l'amour dans le pré.
Le sommet du bonheur avec la start-up dans le pré, l'amour dans le pré. C'est des relations, en fait. C'est vous mettez en relation des gens du milieu rural, et c'est ça?
Un petit peu, ouais, c'est ça. On essaie de créer des relations. En fait, l'objectif, c'est essayer de pousser tout le monde à avoir du réseau. On a un petit souci, quand même, en ruralité, c'est qu'on est un peu loin des métropoles. Et il y a pas mal de belles dynamiques autour de la French Tech, autour de plein de dynamiques comme ça en métropole. Et on, il faut essayer de rejoindre ce train-là. Et si on fait pas des événementiels comme ça à forte portée, où on essaie de faire venir justement toutes ces tous les consultants, les conseillers, etc. En milieu rural, nos porteurs de projets, ils risquent de louper ce train-là. Et donc voilà, c'est un petit peu l'objectif de la start-up, c'est de faire venir un petit peu tout ce monde-là en Lozère. Et donc on a gardé aussi start-up pour leur parler justement à ces consultants.
Bon, on verra tout à l'heure en fait que l'innovation effectivement est pas absente du milieu rural et qu'au contraire des fois les conditions d'accueil, de qualité de vie, là vous êtes à Saint-Rome-de-Dolan, donc c'est ça ?
Ouais, voilà, c'est Saint-Rome-de-Dolan, c'est le centre Pierre Monastier, c'est un centre qui est magnifique sur les gorges du Tarn avec une vue vraiment surplombante, en plus il va faire beau et
on a commandé le soleil.
Voilà. Non, on est sûr.
Il y a des cèpes, il y a des champignons pas loin, ouais. C'est super.
Ah bah là, ça aussi c'est de la COP. Ouais.
C'est pour ça, je pense qu'on va lever tout le monde à 5 heures, histoire d'aller faire un petit footing, ouais. D'aller chercher des champignons.
Mais on peut lier, ça veut dire aussi qu'on peut lier le côté agréable, les conditions de vie exceptionnelles en Lozère, et puis l'innovation, l'intelligence, toute cette plus-value qu'on a ici dans ce département, et qui en fait est pas vraiment mis en valeur. Enfin, on est souvent considéré comme le 1 du monde, et du coup, on se dit... pourquoi pas la Lozère ? Et donc, cette idée, elle est venue d'où, en fait ? Qui c'est qui a eu cette idée intelligente ?
Alors, celui qui a eu cette idée intelligente, il s'appelle Pierre Alzingre.
Coucou, donc. Pierre.
Donc, Pierre, si tu nous écoutes.
Voilà. Et donc, Pierre, donc lui, il était donc directeur de la pépinière Via Innova. Et il s'était dit, il faut essayer de trouver d'autres modèles. On ne peut pas rester uniquement dans les modèles classiques de Startup Weekend. Et il faut essayer d'avoir du bon sens paysan. Voilà, c'est un petit peu son idée. C'est de se dire, voilà, pour avoir des beaux projets, il faut aussi avoir des porteurs de projets qui ont les pieds sur terre, qui respirent et qui, justement, profitent un petit peu de ces cadres de vie. Et du coup, il a un petit peu conceptualisé, il a une belle approche marketing aussi, et du coup, il a réussi à construire une vraie opération, finalement, de marketing territorial, mais qui est basée sur une méthodologie qu'il a vraiment approfondie. Et donc, cette méthodologie, c'est celle donc, de l'accompagnement des entreprises innovantes. Souvent, on appelle ça le Lean Startup. Et puis, aussi des méthodologies pour analyser un petit peu les profils des candidats pour justement le côté de complémentaire. Et ça, c'est de l'analyse psychométrique. Donc voilà, c'est une belle opération de marketing, mais avec un gros back-office derrière méthodologique. Et donc, c'est Pierre un petit peu qui a construit cette idée-là. Et puis, nous, on l'a bien accéléré en 2013. Avec l'édition Lozère. Et du coup, maintenant, c'est une idée qui fait le tour des territoires dans toute la France.
D'accord, ça existe ailleurs aussi.
Voilà, c'est un modèle un petit peu. C'est un modèle d'événement qui fait sa tournée. Et quand il s'arrête en Lozère, on essaie de faire un événement encore plus gros que les autres. Parce que voilà, on porte dans notre cœur aussi Pierre et puis toute l'équipe de Visionary.
On se doit un peu d'être le rendez-vous de la start-up et dans le pré, en Lozère, l'exemple peut-être, parce que peut-être effectivement ce côté pré qui fait pas...
Parce que c'est un vrai pré.
Voilà, c'est des vrais prés, ça fait pas question, vrai. Effectivement, ça pose pas... le côté rural n'est pas à questionner, et du coup, toute la dimension accompagnement. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il reste encore des places, curieusement, parce que effectivement, c'était, comme vous le disiez, extrêmement bien marketé. Il y a un écosystème extrêmement large sur ce week-end. Mais je crois que vous avez du coup des grosses ambitions et vous avez ouvert, parce que le site le permet, un grand nombre de candidats. Et donc, il vous reste encore aujourd'hui de la place pour des éventuels porteurs de projets. Et si j'ai bien compris... il faut pas qu'on se limite, c'est-à-dire qu'on peut être avec un projet peut-être d'artisanat, un projet plus moins connoté, comme le disait Ludovic, numérique ou innovant, mais avec cette méthodologie qui sera propre, et donc du coup ça reste ouvert.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, grosso modo, on attend 60 candidats sur l'événement. C'est énorme hein, pour un concours de start-up, c'est-à-dire 60 porteurs de projets. Nous, à l'agence Lozère Développement, on envoie à peu près 50 par an qu'on évalue. Donc, en un week-end, on veut faire plus que toute l'année. Donc, voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'ambitieux. On n'est pas loin de réussir puisqu'on est déjà 45 candidats. Et du coup, il en manque une petite quinzaine. Mais bon, dans les candidats qu'on a, c'est tous quasiment des porteurs de projets. Du coup, si je même... Il y a des étudiants, des gens qui veulent accompagner les projets et qui veulent aussi voir un peu, qui hésitent, qui se disent qu'est-ce que de l'entrepreneuriat, etc. Il faut y aller parce que voilà, c'est un joli week-end. Il y a deux nuits dans un site fabuleux. On va bien manger, on va bien boire. Et
pas beaucoup dormir.
Tout n'était pas dit, donc il y aura à boire. Et non, pour les auditeurs de 48 FM, ça peut compter. Donc c'est important. Bon, il y aura effectivement, on l'a compris, de la convivialité et un peu sur le témoignage que Sandrine a apporté tout à l'heure, la place pour des gens qui viendraient avec de la compétence, mais pas forcément un projet, et qui pourraient venir mettre au service justement d'un projet coup de cœur qui découvrirait ce week-end et du coup qui découvrirait la dimension entrepreneuriale et le bonheur qu'on peut avoir d'entreprendre.
Bah voilà, je pense que tu parles super bien.
Alors par exemple, moi j'ai une collègue qui va arrêter son travail là, qui est en Moselle, qui a un projet de créer une entreprise, mais qui est en instance un petit peu, qui n'hésite pas, mais qui a envie de monter ce projet, qui a déjà fait un gros travail dessus, qui est en train de le finaliser, donc elle va prendre du temps pour ça. Est-ce que ça s'adresse à ce genre de personnes? Donc c'est sur le textile, hein, la fabrication d'une nouvelle collection de vêtements avec un travail sur une association qui fabrique et qui va concevoir les vêtements, et c'est au Sénégal.
Bon, on est mal si Nicolas nous parle de tous ses amis qui ont des projets.
Remplir les 15 places qui restent.
C'est pour savoir si, par exemple, cette personne aurait sa place. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? C'est surtout ça la question. Parce que venir deux jours quand on est au chômage, etc., c'est un investissement. Donc, ça coûte que 50 euros, je crois que c'est ça.
Voilà, c'est 50.
Plus le transport.
Mais après, on organise aussi des covoiturages. En fonction des inscrits, on essaie de les rassembler au maximum. Mais je pense qu'elle a tout intérêt, en tout cas, à s'inscrire, parce que déjà, il va y avoir un effet réseau. C'est important de ne pas être isolé quand on essaie de lancer un projet. Souvent, les gens qui ont un statut de salarié, qui veulent se lancer, ils n'ont pas forcément un réseau d'entrepreneurs. Et parmi les coachs, c'est-à-dire 40 coachs, il y a 40 entreprises, enfin, il y a 20 entreprises constituées et 20 responsables de pépinières qui viennent sur le week-end. Donc, c'est un vrai réseau. C'est-à-dire que tout de suite, ils vont voir des gens qui sont dans les mêmes problématiques. Et je pense que déjà, ça, c'est l'apport principal. Après, le second apport, c'est justement autour de l'accompagnement, autour des conseils, autour du business plan, autour de toutes les discussions. Justement, c'est très, très dense. Et finalement, le temps à gagner, c'est une économie ce week-end. Parce que nous, sur le budget total, ça nous coûte bien plus que 50 euros par candidat.
Et, oui, j'imagine.
Entre tout le travail d'accompagnement qui est dedans, finalement, c'est une économie de temps et d'argent que de venir sur ce genre de week-end, parce que finalement, en deux jours, elle saura si elle est faite pour ça, elle aura ce ressenti, et puis en plus, si elle a un ressenti positif, là, elle aura déjà toutes les armes et les carnets d'adresses pour pouvoir lancer relations. Ce projet.
Alors, qui intervient là-dedans, personne ressource?
Alors, sur le sommet du bonheur, on a Renaud Gaucher, qui est un économiste du bonheur. Après, on a des docteurs, en tout cas, notamment François Botelier de Poix, sur le sommet du bonheur.
C'est
un chercheur qui va nous parler un petit peu de l'entreprise en milieu rural. Mais par contre, sur la start-up, on va avoir des coachs. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas avoir des cours. C'est pas du tout sous cette forme-là. C'est les équipes se constituent avec deux coach par équipe qui vont travailler avec eux sur le projet pendant tout le temps du projet. C'est-à-dire qu'ils vont faire équipe avec un entrepreneur qui est déjà aguerri et un responsable de pépinière qui connaît tout le système d'accompagnement. Et donc, du coup, ils font partie de l'équipe. Et les coachs auront envie de faire gagner leurs équipes. Donc, ils vont être boostés, justement, par ça.
Tu es coach?
Oui. Donc, c'est mon équipe qui gagne. Je le dis à l'avance.
Alors, toi, tu as une stratégie pour coacher. C'est quoi ta stratégie?
Oh, la bonne humeur. Non, il faut y aller pour... Non, mais c'est juste deux choses que je rajouterais aux avantages de participer à la Startup dans le Pré. C'est la dynamique aussi. Parce que quand on entreprend, on est souvent très seul. Être un entrepreneur est souvent très seul. On a des hauts et des bas. C'est des vraies montagnes russes. C'est pas évident. Ce week-end-là, c'est quand même un sacré coup de pied aux fesses. Dans le bon sens du terme, évidemment. Pas juste pour les rencontres, mais vraiment pour la dynamique en elle-même. On repart boosté de conseils, d'envie d'entreprendre, d'aller plus loin, toujours pousser plus. Donc le réseau, évidemment. Et il y a aussi autre chose, c'est que c'est souvent une des premières occasions de pitcher son projet. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Présenter son projet en une minute, en deux minutes.
C'est
présenter
parler.
Son projet D'accord. dans un temps très court. Savoir dire que les choses sont essentielles.
Il faut savoir parler anglais.
Il faut savoir... Ouais, un petit peu, c'est vrai.
Start-up.
Voilà, start-up, pitch. On pitch son projet.
Bon, il y a deux mots, hein. le reste...
Ça va, ça va aller. Et c'est pas quelque chose qui est évident à faire, c'est quelque chose que moi j'ai fait pour la première fois sur la start-up et dans le pré, donc il y a la première édition. Et c'est quelque chose dont on a besoin tout le temps après, pour se présenter en pépinière, pour se présenter sur des investisseurs, pour aller à la banque, n'importe où. La première chose qu'on nous demande de faire, c'est savoir se présenter en une minute, en deux minutes, en trois minutes. Alors, ça, c'est quelque chose d'important.
J'ai entendu parler la dernière fois, là, justement, un économiste qui disait que, en gros, 70% des projets qui démarraient sur l'année et qui passaient la première année, c'était essentiellement des projets qui étaient suivis, qui étaient boostés par des pépinières, contrairement à ceux qui montaient des projets et qui, eux, en général, ne passaient pas la première année. Enfin, qu'il y avait un taux, c'était de l'ordre de 13%. Le retour quoi d'entreprises qui continuaient au bout d'un an seules en fait sans avoir été coachées. Ça contribue aussi au fait de démarrer dans de bonnes conditions son entreprise.
Oui, parce qu'en fait, quand on a un projet, plus on en parle tôt. Donc en fait, quand on est accompagné, c'est qu'on en parle de son projet, plus on a un retour rapide. Et si on mûrit trop longtemps son projet seul et qu'on ne le confronte pas au regard des autres, au moment de la mise sur le marché, on peut être à côté du marché. Et on n'aura pas testé déjà en amont l'idée, on n'aura pas forcément eu la possibilité de la faire avancer. Du coup, plus on est accompagné, plus on présente son projet dans différents événements comme celui-ci ou les salons, etc., plus à chaque fois, on le travaille. Et du coup, finalement, à partir du moment où on arrive mieux à l'expliquer, c'est qu'on arrive mieux à le comprendre aussi, son projet.
Vous avez un suivi des précédentes éditions pour savoir que sont devenus les candidats, qu'est-ce qui s'est passé pour eux ?
Alors, on n'a pas un suivi mathématique de tous les candidats, mais...
Mais ça, c'est une bonne question. Ouais. C'est quoi le résultat de la dernière ?
Alors, le résultat, déjà, on a une start-up
combien
énorme.
Combien d'entreprises qui ont été créées ?
Non, il y a vraiment eu des belles réussites. Enfin, nous, on n'était pas partis pour ça au départ. C'était quand même du marketing territorial aussi assez vu. On pensait pas générer de l'emploi comme ça. Mais du coup, il y a Sandrine qui a monté Hobby Street et qui a trouvé des associés. Donc après, elle vous parlera un petit peu de son projet. On a Ciel Monradi qui est une start-up qui est à Paris qui aujourd'hui avance bien. On avait donc un projet qui existait déjà qui s'appelle InnoMur qui est un projet de...
Oui, qu'on a reçu ici.
Voilà.
Plus,
ouais. Et donc lui aussi, pareil, il a accéléré. La bière de Lozère, la brasserie 48, le projet aurait émergé, mais on a participé aussi à son éclosion au moment de la start-up. Il y a eu aussi un projet dans les Cévennes de textile. Je me souviens plus du nom, mais grosso modo, ça fait à peu près une dizaine de projets lausériens qui se sont vraiment constitués. Et puis après, sur les 40 de la première édition, donc il y a 10 lausériens dont on est sûr, et après 10 autres qu'on a réorientés vers les partenaires des autres pépinières et qui existent. Il y a des belles applications comme le projet Rune qui est devenu un réseau social des souvenirs. Enfin, il y a des choses vraiment, vraiment sympas.
Et pour les candidats, on continue à se croiser. C'est rigolo parce que ce week-end-là, ça a quand même tissé beaucoup, beaucoup de liens. Et vu qu'on était la plupart de la région, on se croise, on adore se revoir, savoir qu'est-ce qu'on est devenus les uns les autres. C'est du vrai réseau, c'est pas du réseautage. C'est
D'accord.
du vrai réseau.
Est-ce qu'il y a un lien après avec Lozère Nouvelle Vie ? Le fait de pouvoir faire en sorte que sur ce territoire qui a... En tout cas, qui a impulsé une dynamique au sein de ces entreprises, de ces startups. Est-ce qu'elles ont envie de revenir s'installer en Lozère ou pas? Parce que l'idée, c'est aussi de faire que notre département se repeuple un petit peu et qu'il y ait des gens qui ont envie d'innover, mais aussi de rester dans cette innovation et dans ce cadre de vie.
Bah oui, en tout cas pour les. On va dire pour les lauréats quand même. On garantit, au niveau des prix, il y a quand même une condition. C'est-à-dire que les lauréats peuvent toucher les prix à partir du moment où ils restent dans le réseau Cinersud. C'est le réseau régional. Mais donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des très très beaux prix qui sont donnés par le Crédit Agricole, par
comme
le Crédit Coopératif, des prêts accords. Donc je crois que c'est 5 000 euros par le Crédit Agricole. Il y a en tout, ça fait à peu près 25 000 euros de dotation en tout. sur le week-end. D'accord. Il y a aussi l'accès à des outils de marketing avec Sobuzz, etc. Enfin, il y a pas mal de prix. Mais par contre, pour pouvoir bénéficier de ces prix, il faut rentrer en accompagnement dans une des structures du réseau Synersud. Ça ne veut pas dire que c'est pas ouvert aux autres régions. Ça veut simplement dire que pour pouvoir profiter des prix, il faut s'inscrire. C'est aussi un petit peu le deal. Mais donc, si un entrepreneur veut venir accélérer son projet en Lozère, de toute façon, même s'il le monte à Bordeaux ou ailleurs, il aura un lien privilégié avec le territoire et ça se traduira par des relations, par des sous-traitances. Ce sera forcément un retour positif à un moment donné.
Donc, on s'inscrit dans l'attractivité, on s'inscrit dans la dynamique. On a bien compris qu'on allait accélérer les projets ce week-end. C'est vrai que pour peut-être conclure, mais souvent on hésite à être accompagné. Ta question, Nicolas, était bien sûr pas innocente. On a parfois, quand on est créateur d'entreprise, peur de pouvoir échanger, et donc on hésite à accompagner. Et cette hésitation-là, elle peut être fatale parce qu'effectivement, du coup, on va pas assez loin et ça peut s'arrêter prématurément. Donc l'accompagnement à la création d'entreprise est essentiel. Et du coup, le tester, cet accompagnement sur un week-end, l'engagement est moindre. Ouais. On se dit, waouh, si je pars pour un an d'accompagnement, et moi, j'imagine toujours que ma création d'entreprise, elle va aller vite. Dans les faits, c'est pas si vrai. Mais en tout cas, un week-end, on prend pas un gros risque. On est accompagné sur deux jours. Et la suite se mettra en place si jamais ça doit se mettre en place. Donc, je crois que c'est ce qu'on va retenir. On accélère les projets ce week-end. Comment on fait si on n'est pas encore inscrit, ce qui serait... une vraie
dommage.
Une erreur dans
jusqu'à
l'absolu.
Jusqu'à
mais
quand
on peut avoir imaginé qu'on ait des auditeurs qui se soient pas encore inscrits et qui là sont en panique parce qu'ils se disent où je vais pour m'inscrire.
Par exemple ma collègue là, Lily, voilà. Jusqu'à quand elle peut s'inscrire?
Alors,
comment elle peut s'inscrire?
Donc du coup le je dis déjà la date du concours hein, donc c'est bien vendredi soir de cette semaine, les candidats sont attendus à 18h à Saint-Rome-de-Dolan. Ça veut dire qu'on est obligé de clore les inscriptions mercredi après-midi. Mais comme on est super sympa, je suis sûr que même s'il y a un petit coup de téléphone qui arrive vendredi matin, on serait capable, en tout cas s'il reste des places, de se débrouiller pour que ce soit faisable. Mais dans l'absolu, il faudrait vraiment s'inscrire donc jusqu'à mercredi minuit.
24 heures chrono à partir de maintenant.
Voilà, 24 heures chrono. Et du coup, c'est le site de la start-up et dans le pré. Et sur le site, vous verrez, il y a un onglet Lozère. Donc, c'est la start-up et dans le pré Lozère. Et du coup, voilà, là, après, il y a le formulaire d'inscription, il y a tous les détails. Parce que le concours est un peu complexe, il y a pas mal d'éléments.
Voilà, www.lastartupestdanslepré, en un seul mot, .fr.
Voilà.
Et puis après, vous allez vous inscrire. Le site est très bien fait, là, je suis dessus. C'est vrai que il est bien, il est dynamique, il est dans les couleurs de la plaquette. Voilà, et donc il y a la Lozère du 24 au 27 septembre 2015. Ben, en tout cas, on vous remercie. C'était très intéressant, comme d'habitude. Hein. Lozère Développement, il faut continuer à développer parce qu'on a vraiment besoin de toutes ces initiatives. Et puis on souhaite bonne chance voilà, aux candidats et aux candidates.
Une belle réussite.
Je pense que Ludovic d'Absolutewood veut bien bonne chance pour le concours.
Ah, donc quelle transition, Ludo, qu'on a déjà eu sur cette
on
antenne.
On va faire une petite pause musicale.
On fait une pause et on retrouve le Ludo après.
Story was in my head. That story was in my head. That story was in my head. That story was in my head.
48 FM Le Mag.
Voilà, après cette petite coupure musicale, mon cher Fredo, nous allons
On enchaîne,
continuer.
Comme annoncé, le Ludo accompagné de Monsieur de Loustal. Alors, donc, on n'a pas le prénom pour vous, Monsieur de Loustal.
Patrice
et Ludo. Ludo et Patrice ont créé Absolute Hood.
Absolute Hood.
Absolute Hood.
Il n'y a pas de thé.
Il n'y a pas de thé. Tu confonds avec la marque de vodka.
Et c'est ça. Je me disais bien que j'avais déjà vu cette
marque quelque
part.
Mais en plus, là, il a des restes.
Il me semblait bien avoir vu ça. Alors, donc, ce n'est pas de la vodka que vous faites. Vous faites quoi, Ludo? Parce que, alors, Ludo, on l'avait déjà eu sur nos antennes.
Le mot est magique, hein, quand
on même. On l'avait eu sur nos antennes avec du numérique. Ludo était un geek de la première heure.
Mais il est toujours un peu, quand même.
Et du coup, est-ce qu'on retrouve du numérique dans Absolute Hood? Et comment? Et parce que là, on a eu la chance d'avoir deux, trois échantillons. Donc, c'est du bois qu'on a vu, mais j'imagine que pour sortir ça, il y a quelque chose derrière.
Enfin, du bois, c'est pas du bois brut, hein. En fait, vous faites des objets de communication, c'est ça, hein?
Voilà, ouais.
Durable et solidaire, donc on verra la partie solidarité. Et tout ça en bois.
Tout ça en bois, oui. Donc le projet Absolute Wood, c'est de valoriser un petit peu différemment le bois. Et notamment le mettre en œuvre pour la conception et la fabrication d'objets de communication. Donc aujourd'hui, on est principalement sur ce marché de la communication par l'objet. Et on essaie de vendre nos produits à des marques qui veulent communiquer autour des valeurs du développement durable, de l'écologie. Et surtout à partir d'objets esthétiques, c'est-à-dire que on a tous une approche assez particulière avec le bois. C'est une matière qu'on aime toucher, c'est une matière esthétique. Et voilà, donc l'idée, c'était de proposer ce type de produit. Et c'est difficile de le faire seul. Et c'est ça aussi, c'est en lien un petit peu avec la start-up. Moi, je crois beaucoup au fait de croiser des expériences, des compétences. Et ben voilà, en tout cas de mon côté, Monsieur de Loustal dira ce qu'il en pense. Mais moi, je suis content de pouvoir travailler avec Monsieur de Loustal et c'est toujours enrichissant.
C'est une rencontre. Voilà. Donc, Absolute Wood, ça va de où? Ça part de où à où? Parce que vous faites quoi? Est-ce que vous allez jusqu'à couper les arbres? C'est quoi la plus-value de l'entreprise? C'est quoi le métier et c'est quoi vos métiers du coup et vos complémentarités?
Non, on va pas jusqu'à couper les arbres encore. Donc j'ai découvert cette matière il y a 2-3 ans, qui est le bois souple. À l'origine, donc, on fabriquait des articles de bureau.
Alors, ce que vous appelez bois souple, c'est des feuilles de bois, c'est ça?
C'est du bois brut, qui est tranché.
Mais en très très fine.
Qui subit un traitement mécanique pour l'assouplir, quoi. Ouais. Et nous évoluons donc dans la papeterie. Et je me suis dit, la transition, pourquoi pas remplacer le plastique, le PVC ou le carton par le bois, quoi. C'est l'idée à l'origine, comme l'a dit M. Toussaint. Je pense qu'aujourd'hui, les projets, c'est mieux de les avoir, de trouver des compétences ailleurs, quoi, hein. Donc on avait une compétence, je dirais, plus de production, de savoir-faire. M. Toussaint amène de la compétence pour ce qui est marketing, distribution, e-commerce. Et de là, on a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. Donc, on a créé la marque Absolute Wood, qu'on a déposée. Et aujourd'hui, donc, on commercialise ces produits. Et on demande, on va donner une impulsion supplémentaire à cette activité et à cette marque.
Et il y a du design aussi. Donc, qui crée les objets en tant que tel? Décide de faire une boîte, décide de faire effectivement la carte postale qui va bien en bois.
Vous faites appel à des designers?
Alors, on a travaillé avec... On est parti d'une collection existante, puisque la FLPH fabriquait et façonnait déjà des produits de papeterie. Donc ça a été ça nous a permis de tester un petit peu le marché. Et puis, on s'est dit qu'il fallait quand même étendre notre activité. Donc, aujourd'hui, on a développé des gammes de packaging, parce que le packaging, on reste sur un marché de la communication. C'est pas de l'emballage. C'est-à-dire que nos boîtes, nos créations, elles servent à mettre en valeur un produit. Elles servent à le faire acheter.
Par voilà. exemple, là, j'ai une boîte entre les mains qui sert à quoi ? Mettre un paquet de clopes, c'est ça ?
Non, un c'est
gros
plus...
paquet de clopes.
C'était plus destiné à emballer un flacon de parfum. Mais pourquoi pas des cigarettes,
oui,
c'est un peu moins sexy quand même.
Ouais, non, le parfum est quand même plus absolu. Voilà.
Ouais.
Pourquoi pas, mais la taille, bon, me faisait penser un petit peu à ça. Quoi, décrire une couleur.
C'est des produits qu'on est en train de commercialiser, le packaging, mais c'est quand même un processus long. La difficulté finalement aussi d'un projet innovant, c'est qu'on arrive sur un marché où les gens n'ont pas l'idée d'acheter le produit.
Ils n'ont pas l'habitude,
Ils n'ont pas de repère. Aujourd'hui, si on vous dit, vous n'avez pas idée d'acheter, par exemple, un agenda avec une couverture bois, ou en tant que fabricant, de vous dire, ah ben tiens, si on mettait nos flacons de parfum dans un packaging en bois. Donc il y a un énorme effort de communication à faire auprès des consommateurs ou auprès des marques. Ouais.
Mais pourquoi le faire en bois ? Parce que là, entre les mains, j'ai effectivement un très bel agenda 2016 avec une couverture en bois très fine qui est très souple en fait. On dirait vraiment une couverture classique qui aurait pu être en PVC, mais qui est en bois. Alors, quelle est la plus-value et pourquoi on achèterait ça ? Parce que le bois, ça se tache, ça peut partir en copeaux, enfin, je ne sais pas.
Ça brûle.
Qu'est-ce qui fait que, en termes de communication, ça brûle, bon, comme le papier, mais globalement, qu'est-ce qui fait que je vais prendre ça ?
Eh ben, si ça brûle, par exemple, tu vois, tu t'intoxiques pas. T'es pas comme...
Si elle est à 8 mètres, tu peux carrément le mettre au feu.
L'idée, c'est d'avoir, de faire un achat, je dis, responsable, quoi, plutôt que de traiter du plastique, du PVC, c'est plutôt d'avoir du bois, d'avoir une image responsable. Alors là, vous avez un agenda, ça peut être un agenda rechargeable. Enfin, l'idée, c'est dans la durée, quoi. Hein.
D'accord.
Aujourd'hui, on arrive dans une ère où il faut quand même être vigilant à nos consommations, à nos habitudes.
En même temps, on fixe du CO2, c'est ça ?
Pardon ?
On fixe du CO2 en même temps.
C'est ça, dont on...
Tout à fait.
L'intérêt de l'objet, c'est, un, qu'il est durable, qu'il est... fabriqué de manière solidaire, parce que monsieur Deloustal ne l'a pas encore présenté, mais la FLPH, c'est une entreprise adaptée. Donc, au-delà de l'emploi
donc,
durable.
Des personnes handicapées.
En situation de handicap. Donc, au-delà de la matière durable, de la matière esthétique, de la matière qu'on aime bien toucher, qui est tactile, il y a un ensemble de facteurs qui font que ça peut être original d'acheter un agenda en bois de par la matière et de par le mode de production aussi que ça représente.
En tout cas, pour la start-up et dans le prêt, on avait des carnets à faire et pour les candidats. Et du coup, ça paraissait vraiment évident de partir sur ce type de support vu le discours qu'on avait sur innover autrement, etc. Et finalement, dans un univers du plastique, quand on sort un agenda en bois, c'est vachement plus classe. Que les autres supports traditionnels qui sont surpelliculés, survernis, etc.
Est-ce que c'est pas une marque du territoire un petit peu ? Parce qu'on a un département qui a un potentiel en bois qui est énorme. Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire, vous voyez, en milieu rural, on peut produire des choses aussi comme ça qui ont une identité ?
Tout à fait. Non, mais là-dessus, il y a peut-être deux choses à dire. C'est que moi, je suis convaincu. Que l'innovation, elle peut aussi bien être, elle peut aussi bien se faire en milieu rural que dans des agglomérations plus grandes. Il y a des avantages et des inconvénients qu'on soit en ville ou à la campagne. Après, je suis convaincu que c'est un petit peu le dynamisme qu'on met dans son projet. On a quand même de la simplicité à rencontrer d'autres chefs d'entreprise, à être en relation avec des structures comme Lozère Développement qui pousse réellement les projets derrière. Donc ça, c'est important. Et après, la marque de territoire est forcément... Il y a quand même quelques forêts en Lozère. Donc nous, on y a de suite vu un intérêt avec M. Deloustal à travailler cette matière. Et, Et elle colle bien à l'identité du département.
Ouais. Oui, tout à fait. C'est produit en Lozère. Alors, c'est des choses qu'on tient, quoi, hein, qu'on y tient vraiment. C'est des produits français. Le fait soit produit par des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est tout cet aspect-là qu'on essaie de valoriser. Comme le dira Vincent aussi, ça peut être un moyen de se démarquer pour des grandes marques. Hein. Ça fait un peu plus classe. C'est du produit haut de gamme. Aujourd'hui, les retours, c'est que la matière plaît, le concept plaît. On se heurte un petit peu au fait que c'est nouveau. On n'a pas l'habitude de le voir. Donc, voilà, les gens, il faut qu'ils y prennent quelques repères qui étaient l'habitude. Quoi.
Mais pour compléter, sans vouloir être trop long, c'est le bois, il se suffit à lui-même aussi. C'est-à-dire que le côté esthétique du bois, donc là, on peut l'agenda qu'on vous a amené, c'est de la gravure, mais on peut l'imprimer. Mais de par lui-même, une couverture en bois ou un packaging en bois, déjà, il va représenter beaucoup de choses. Et on n'a pas besoin, comme disait Vincent, d'un pelliculage, d'une dorure, de rajouter tout un tas d'artifices. Alors que la nature est belle, ouais, par elle-même.
Parce que là, vous pouvez graver aussi. C'est une gravure laser, c'est ça?
Oui, c'est de la gravure laser. D'accord. Ouais,
donc, dans l'épaisseur, etc. Donc, il y a des espèces d'effets de surface quand même qui sont intéressants. Ce que vous pouvez...
Voilà, c'est un petit peu cet effet qu'on a sur l'agenda.
Sur 2016,
qui est très, très radiophonique, hein, puisque vous pouvez le voir.
C'est magnifique.
C'est magnifique à la radio.
Ça fait quand on passe le doigt. Voilà. Mais par contre, vous faites aussi des enveloppes. Donc, ça, j'ai trouvé ça étonnant. Des enveloppes en bois.
Tout à fait. On avait décidé de fabriquer une enveloppe en bois. C'est le côté original. Comment véhiculer un message? Comment envoyer un message? Il y a le côté déjà original. Ça peut être un souvenir qu'on garde. Il y a le côté émotionnel qui va passer avant tout.
Si vous mettez le chèque dedans, c'est un chèque en bois. C'est génial, quoi.
Oh,
Faites pas les chèques.
Elle venait de loin, celle-là, mais bravo.
Non,
tu l'as cherché. Il y avait la blague du jour. C'est celle-ci.
Par contre, vous n'avez pas répondu à la question sur le designer. Du coup.
Et sur les designers, donc les produits, pour l'instant, on les conçoit, on va dire, par nous-mêmes, avec l'appui de stagiaires. Et puis, on essaie de développer là aussi des partenariats avec d'autres startups dans le domaine, par exemple, du design, qui proposent des choses intéressantes.
J'ai vu qu'il y avait des sites de mise en valeur de produits designés par des élèves qui sortent d'école. Et notamment, j'ai vu récemment un cartable en bois. Et j'ai trouvé l'idée assez géniale. Et là, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il n'y a pas plus de relations avec ces jeunes qui sortent d'école?
C'est ce réseau qu'il nous faut essayer de mettre en place, de trouver des partenariats avec des designers. On a déjà rencontré quelques personnes là, au début du mois, hein, qui sont très intéressées par le concept déjà d'une où on peut produire. Donc,
localement. Ça, c'est intéressant.
Ça, c'est très intéressant. Et eux, donc, apporteraient leurs compétences sur la partie design et c'est de voir, de rester en relation et de voir comment on peut évoluer, faire un bout de chemin ensemble à travers en associant notre matière, nos savoirs, nos compétences, eux, leurs compétences, pour arriver à avoir un concept de produit abouti. Quoi.
D'accord.
Ouais, j'ai juste deux petites dernières questions. Parce que on a peu parlé des personnes en situation de handicap. Oui. Quelle place ils ont dans la production et comment ils ressentent ce travail aussi un petit peu original d'ouverture sur l'entreprise et d'une nouvelle entreprise? Puis là, peut-être vous pourrez enchaîner les réponses. C'est quels sont vos marchés? Est-ce que vous avez eu des clients un petit peu symboliques et avec qui vous travaillez aujourd'hui, peut-être pour donner envie à d'autres?
Sur la première partie, les personnes en situation de handicap sont, je dirais, très heureuses. Je veux dire, aujourd'hui, on leur apporte de la nouveauté, mais ça, je dirais, c'est pas lié au handicap, c'est lié à tout salarié.
Tout à fait.
Quoi, hein. C'est de pouvoir évoluer. Donc, tous les on voit pas, on est à la radio, mais les articles sont fabriqués par eux. Donc, ça va de la découpe, de l'impression, le montage, le façonnage. Donc, il y a plusieurs étapes de production. C'est toujours une montée en compétences pour eux, c'est des plus-values, ça sort de l'ordinaire, donc ils sont très heureux de participer à ce type de production. Le bois, on est localement quand même des régions de bois, donc tout ce qui peut être fait, ça va dans un sens où voilà, ils aiment bien participer à ça et ils sont très demandeurs à ce niveau-là, quoi.
Merci. Et au niveau de l'achat, donc si je veux acheter ou passer commande, je fais comment? Je vais sur le site?
Alors, c'est la deuxième question. Qui sont vos acheteurs?
Nos acheteurs, principalement aujourd'hui, l'activité, ce sont des marques qui nous achètent nos produits. On aime bien en citer certaines parce qu'elles montrent que finalement, les produits sont bien adaptés à certains marchés. Donc, on travaille notamment pour la Fondation Louis Vuitton, pour la boutique du musée de la Fondation où on fabrique des carnets. On a eu travaillé, que tout à l'heure, vous parliez des enveloppes. On a travaillé pour on a réalisé des enveloppes pour Coca-Cola au moment du lancement du Coca-Cola Life. On travaille là actuellement pour une marque de lunettes en bois de luxe qui est au Luxembourg. Donc on a un positionnement des objets qui est plutôt, on ne peut pas dire luxe, mais haut de gamme. Et ça aussi, on en est particulièrement fiers parce qu'on se dit, oui, le travail qu'on fait, il a une réelle valeur, il y a de réels savoir-faire derrière. Voilà. Et puis, d'ici quelques jours, les produits seront également accessibles à l'achat sur notre site qui, pour l'instant, présente seulement nos savoir-faire.
D'accord.
Voilà. Donc, chers auditeurs, en ligne, mais bientôt,
ce sera donc sur www.absolu-wood, c'est ça, en anglais ?
Oui.
.com.
Voilà. C'est bien ça.
Bon, et je vous remercie beaucoup.
Merci.
C'est vraiment intéressant, ces initiatives. Et ça faisait aussi partie des start-up que vous aviez accueillies.
En tout cas, vous participez du coup ce week-end ou vous êtes... vous participez parce que c'est vous fournissez en partie le matériel.
Voilà, on est partenaire absolu des partenaires de l'opération ce week-end. Et puis après, on est accompagné par l'Auxerre Développement depuis maintenant un peu plus d'un an. Et voilà, ça aussi, c'est vraiment important dans le projet. Ça nous a permis de bénéficier de certains dispositifs pour accueillir des stagiaires, pour valider ou invalider des positionnements sur certains marchés. Donc voilà, et ça, c'est grâce à des structures comme l'Auxerre Développement qu'on peut le faire.
D'accord. Bon, à boucler,
boucler.
On va faire une petite coupure musicale et on se retrouve tout de suite.
Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis à faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. Comme une pizza sans olive, une page de pub sans lessive. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racines, comme le théâtre sans racines, sur cette plage sans aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, la bébête qui monte, je me rends plus compte. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte. Château sans la Loire, une normande
sans armoire.
48 FM Le Mag.
Voilà, de retour donc dans notre mag spécial innovation et événements sur l'entreprise. Et bien on accueille Obistreet avec Sandrine Planchon. Bonjour Sandrine.
Et oui, bonjour, bonjour.
Donc tu es pas nouvelle Sandrine.
Je suis toute jeune quand même. Hein. C'est vrai, je suis pas nouvelle lozérienne, non ça c'est sûr.
Alors qu'est-ce qui t'amène chez nous Obistreet, qu'est-ce que c'est?
Alors Obistreet, qu'est-ce que
c'est?
J'ai
lu, hein, plateforme de marketing social.
Ouais, non, c'est trop compliqué ça. Alors déjà, Obistreet, c'est l'ex-Cobiv, puisqu'en Lozère, on était Cobiv jusqu'à il y a encore pas très très longtemps, toute l'année dernière, et que c'est comme ça qu'on a testé le Cobiv, C-O-B-2-I-V-E, Cobiv, et aujourd'hui donc Obistreet. Et donc Obistreet, c'est un site internet qui vous permet de participer à des ateliers pour aller apprendre tout ce que vous voulez chez tous les artisans de votre quartier. Voilà, donc c'est pouvoir rentrer chez une fleuriste pour apprendre avec elle de l'art floral, rentrer chez un plombier pour apprendre à entretenir sa plomberie, rentrer chez un boulanger pour apprendre à faire un pain au chocolat, etc., etc. Tous les savoir-faire accessibles en atelier.
Mais alors comment ça marche? En fait, vous rentrez en contact avec... c'est ça?
C'est ça. Alors en fait, c'est une plateforme, une marketplace, comme c'est souvent le cas aujourd'hui sur le en ligne.
Une marketplace.
Oui, il faut vraiment.
Ah ouais, mettre... nous, on non, est Obistreet. Obistreet.
Obistreet.
On repart en anglais.
Mais pourquoi? Donc, parce que c'est un concept qui vient des États-Unis, ça?
Pas non, du tout. C'est le nom Obi nous plaisait bien parce qu'il existe, ouais, en français, en anglais, ouais, qui parle à tout le monde, et le street parce qu'on voulait avoir un concept un peu moderne quand même, et on voulait garder cette sonorité
et un peu urbain.
Un petit peu urbain quand même, même si on l'a lancé en rural et qu'on y tient. Voilà. Et donc, comment ça se passe? Vous inscrivez, vous allez sur la plateforme et vous cherchez par thématique ce que vous avez envie d'apprendre.
Je suis un particulier,
je suis un particulier, du côté particulier. D'accord. Pour l'instant. Donc, par exemple, j'ai envie d'apprendre à faire des macarons.
Ouais. D'accord.
Alors, il n'est pas encore en ligne.
Ah bon.
Il sera en ligne dans un mois et demi. Il faut encore être un tout petit peu patient.
Vous avez l'envie, nous avons l'atelier.
Voilà. Vous avez l'envie d'apprendre, nous avons l'atelier.
D'accord. Donc, je m'inscris, donc je me référence, c'est ça?
Voilà, exactement.
D'accord.
Et une fois que vous êtes en ligne après, vous cherchez par thématique et par localité. On rentre son code postal, pâtisserie, cuisine, yoga, etc. Et on vous sort tous les pros à côté de chez vous et tous
avec
les ateliers.
Qui vous avez passé, en fait.
Nous, on a passé des accords avant, on travaille avec eux. Et toutes les dates d'ateliers qu'ils proposent avec toutes les thématiques, vous n'avez plus qu'à vous inscrire en ligne, payer votre place en ligne et c'est terminé.
Donc
vous
en
vous
fait,
rendez votre atelier.
Le professionnel, lui, se fait rémunérer par le prix d'un atelier,
c'est ça,
d'une
inscription. Exactement.
Genre atelier cuisine, 50 euros de
par exemple,
journée, par exemple.
Voilà.
C'est ça.
C'est ça.
Et donc je m'inscris directement.
Voilà,
ensuite,
vous payez directement en ligne, ouais. Et nous, après, on s'occupe de toute la partie paiement, etc. avec le pro. Vous n'avez pas de démarche particulière à faire. C'est comme si on s'inscrivait à n'importe quel événement en ligne, un concert, voilà.
On
pareil.
On retire le ticket, c'est ça?
C'est ça, exactement.
On a fait l'inscription.
Voilà, et il n'y a plus qu'à se rendre à l'atelier. Il y a passé un bon moment.
D'accord. Alors, comment vous choisissez les professionnels? C'est par rapport à la demande ou vous suscitez...
Non, pas forcément par rapport à la demande. Par exemple, la demande, on la connaît bien, cuisine, bricolage, grand classique. Mais il y a des activités auxquelles on tient. C'est par exemple aussi tout ce qui est l'artisanat d'art. Si aujourd'hui, vous avez envie de vous essayer à la forge, comment vous faites pour vous essayer à la forge? Bon, mais ça, c'est quelque chose qu'on proposait sur Cobiv. Faire 4 heures de stage en forge. Qui se dit que demain, on va pouvoir aller taper avec un marteau sur une enclume, maîtriser le fer, etc. C'est pas quelque chose qu'on peut
ça,
faire.
C'est,
et...
c'est des chouettes cadeaux.
Et c'est
ça.
Génial.
Que mesdames peuvent faire, messieurs.
On revient
là,
bientôt.
Tu m'énerves, chérie. Tiens, je t'ai pris un atelier. Tu vas aller cogner sur de la forge.
Exactement.
Ça va te calmer.
L'artisanat d'art.
C'est une bonne idée pour ta forge.
Des fouloirs.
D'accord. Artisanat d'art, oui.
L'artisanat d'art, c'est pas forcément des très très grosses demandes. Enfin, du moins, c'est pas le gros buzz qu'on connaît autour de la cuisine et du bricolage. Et pourtant, c'est des activités qui marchent très bien. Voilà. Et auxquelles on tient.
D'accord. Artisanat d'art, alors quoi d'autre encore?
Alors après, c'est tout l'artisanat en général. Donc évidemment, tout ce qui va tourner autour de la cuisine, du bricolage, de l'art floral, de la photo, tout ce qui est le petit bâtiment, plomberie, électricité, ce genre de choses-là. Tout ce qui peut vous amener une compétence dans votre vie pratique, dans votre vie du quotidien. Donc évidemment, on va pas faire avec des grosses entreprises de bâtiments, on va pas vous apprendre à faire du ciment et à construire une maison. Non, ça c'est pas l'intérêt. Voilà. Par contre, faire un mur en pierre sèche, pourquoi pas?
D'accord. Et alors, comment cette idée vous est venue, à vous, jeune Sandrine?
Alors, à l'origine, j'étais vraiment plutôt du côté grand public, un besoin personnel. J'avais envie d'apprendre à faire des macarons. Il fallait qu'impressionner belle-maman pour le repas de vendredi soir. Ah, je vais faire des macarons. Il faut absolument que je fasse des macarons. Voilà.
Elle a été impressionnée ?
Oui, heureusement.
Sinon, il n'y aurait jamais eu au biscuit.
Parce que après deux, trois essais...
Tu vois ce qu'il me reste à faire.
Après deux, trois essais complètement loupés et pas mal de tutos en ligne et d'achats de livres et aucune réussite, je me suis demandé qui c'est qui pouvait vraiment m'apprendre à les faire. Je me suis rendue chez mon pâtissier, j'ai posé la question, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas une heure, s'il te plaît, de ton temps pour m'apprendre à faire des macarons parce que je ne m'en sors pas ? Il m'a dit bah, avec grand plaisir et j'ai commencé comme ça. Et en discutant avec ce professionnel et puis d'autres, je me suis rendu compte qu'eux avaient un véritable besoin et manque d'attraction client, de fidélisation client en magasin, ce qui est de plus en plus compliqué avec le e-commerce et toute la vente en ligne. Et j'ai trouvé que ce serait un super moyen d'organiser des événements dans les magasins pour attirer, fidéliser des clients et vendre.
Donc, au-delà de l'atelier, il y a l'idée de venir un peu en soutien aux commerçants artisans.
Exactement.
Pour fidéliser la...
Mais, tout à fait. En fait, l'atelier, c'est vraiment pour nous l'outil marketing de parfait de l'artisan et du commerçant de proximité. Il suffit d'avoir un lieu et un savoir-faire. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil de communication et de visibilité assez extraordinaire dont on n'avait pas d'ailleurs forcément mesuré les retombées avant de se lancer dans Cobive. Et en fait, c'est un outil marketing et de communication du magasin de demain très impressionnant.
C'est comme ça que vous le vendez aux commerçants aujourd'hui ? Pas seulement.
C'est vraiment un outil, on le vend plus comme un outil de relation client parce que ouais, c'est vraiment c'est du relationnel. D'accord. Bien sûr, après, ça attire, ça fidélise et ça permet de vendre. Parce que ça reste important pour eux, il ne faut pas se mentir, ils sont quand même là pour faire du chiffre et pour vendre aussi. Mais en termes de relation client, c'est très très fort. Parce que quand un pro partage son savoir-faire, il met ses clients en confiance, il se valorise en tant qu'expert, et les clients qui reviennent parce qu'ils sont en confiance justement, parce qu'ils se sentent privilégiés aussi, etc. etc.
Est-ce que ce n'est pas une solution pour répondre aux problématiques du commerce local qui est en train de disparaître au profit des grandes enseignes qui se mettent souvent en périphérie des villes. Mmh. Et du coup, bon, on y revient un petit peu à ça. Mais globalement, c'est un schéma quand même auquel on assiste depuis une dizaine d'années. Hein, les villes qui se dépeuplent, les centres-villes qui se dépeuplent, les petits commerces qui ferment, etc., par manque d'attractivité. Est-ce que ce n'est pas une façon de refaire venir les gens et de changer leur mode de consommation ?
Bien sûr que si. C'est bien comme ça aussi qu'on communique sur ce projet-là. C'est que les clients, ce qu'ils cherchent dans les magasins de centre-ville, c'est la proximité et c'est le lien. Voilà. Sauf que c'est quelque chose qu'on a oublié d'utiliser et de valoriser pendant pas mal de temps. Et le côté pratico-pratique des extérieurs et de tous les extérieurs
de
ville,
voilà,
on prie le dessus. Ouais. Sauf que ce lien-là, quand on va chez son boucher le matin et qu'on échange avec lui sur des conseils, comment cuisiner sa viande, etc., ben on l'a perdu aussi. Et c'est ce que les clients retrouvent dans le fait d'aller pratiquer les ateliers chez leurs artisans commerçants.
On ose reparler à son, exactement, à son commerçant.
Et qui sont centrales dans la vie d'un village, en plus, mais pas seulement d'un village, d'une ville, d'un quartier, d'un centre-ville, que ce soit Montpellier, Paris ou n'importe où ailleurs.
Un commerçant. Taper la bavette, c'est ça ?
Tape la bavette.
Un commerçant, ils sont des vecteurs très forts du lien social de proximité,
oui, c'est sûr.
Et de la vie de quartier.
Sous les coiffeurs.
Mais alors après, moi, il faut qu'il y en ait un qui pose la question, mais qui peut éventuellement déranger. Mais moi, mon commerçant, alors pas Amande, bien sûr, mais vous avez des ambitions nationales. Donc on va taper sur une autre ville, mais on a des commerçants qui, des fois, sont pas toujours sympathiques.
Oui.
Qui n'ont pas toujours le temps de. Alors, du coup, comment vous voulez trouver ces commerçants qui jouent le jeu ?
La sélection se fait très vite toute seule parce que les pros qui n'ont pas envie de jouer le jeu, là, l'atelier, on ne peut pas mentir. Hein. Tu te retrouves face à tes clients. Et si tu n'as pas envie de leur donner, ça va marcher une fois, pas deux. La deuxième chose, c'est qu'on est sur donc un modèle marketplace, donc avec des avis en ligne et des commentaires.
Ah oui,
mais
d'accord.
Ça pèse très lourd, comme sur tous les...
Machin, il est nul en pédagogie. Voilà. On n'a rien compris, on a payé 50 euros.
En
bavette, il n'est pas bon.
c'est exactement le jeu des sites en ligne, en effet. Donc, il n'y a aucun intérêt à le faire si on n'a pas envie de le faire ou si on n'a pas envie de donner du temps, etc., etc.
Et est-ce qu'on a envie, alors ? Parce que est-ce que c'est facile de trouver des commerçants qui jouent le jeu ?
Bizarrement, c'est beaucoup plus facile que ce que j'aurais pensé.
Il y a une attente.
Il y a une attente, il y a un vrai besoin et c'est une solution très simple. Et surtout, c'est quelque chose qui leur demande aucune compétence technique. Ils ont leur savoir-faire.
Enfin, pas technique, mais pédagogique un peu. Quoi,
oui, mais sauf qu'ils sont... Alors d'abord, ils sont déjà commerçants la plupart. Donc c'est quand même...
Ils
sont déjà en lien, l'habitude de parler, etc. Deuxièmement, les artisans sont souvent des gens passionnés par leur métier. Est-ce que vous avez déjà essayé de lancer un artisan sur un sujet par rapport à son métier ? Parce qu'il ne faut pas prévoir 10 minutes, hein, ça ne suffit
pas.
Oui,
l'horloger de la canourgue, vous y allez, vous y restez
2
heures.
Bonjour monsieur Merle. Voilà, c'est mon voisin, on se connaît bien.
Il est excellent. Hein.
Voilà,
ah ouais, excellent.
On prévoit des ateliers d'une heure et demie, trois heures après, les gens sont encore là. Oui. Voilà, il y a pas de, c'est pas difficile de.
Donc il y a un vrai marché.
Il y a un vrai marché.
Et les ordres de prix, c'est quoi?
Alors là, ça dépend vraiment de la thématique, en fonction du matériel souvent, mais ça commence souvent.
C'est-à-dire un atelier boucherie. Si j'y vais, je repars avec un kilo de bidoche ficelé.
Par exemple,
payer la
viande. Voilà, exactement. Les ateliers les plus chers, ça va être cuisine en général, parce qu'en effet, les matières premières et la cuisine sont chères. Mmh. Après, si on part sur des ateliers de loisirs créatifs et artisanat d'art suivant les matières premières, ça, en dessous de 20 euros, on peut faire 2 heures ou 3 heures d'atelier, oui.
Ah oui, d'accord, c'est quand même assez.
Oui.
Et
c'est accessible, oui.
Et alors, le modèle économique d'Obi Street, il est sur les ateliers, il est sur la rémunération que vous avez, la marge, j'imagine, avec les et la publicité que vous faites indirectement aux commerçants, que vous vendez peut-être.
Il y a droit d'entrée, c'est ça?
C'est quoi le...
Non, il n'y a pas de droit d'entrée.
Qu'est-ce qui fait le modèle économique?
On y a tenu vraiment à ça. Obi Street prélève une commission sur chaque réservation enregistrée en ligne. Pourquoi est-ce qu'on l'a pensé comme ça? Parce que pour les professionnels, il fallait qu'il n'y ait aucune contrainte et aucun risque à se lancer. Là, aujourd'hui, si un professionnel met demain un atelier en ligne, il ne paye rien. On va mettre en place nos outils de communication, il va se servir de nos outils marketing en ligne, etc. Si ça marche, on prélève sur les réservations. Si jamais il y a zéro participant, Obi Street ne prélève rien. Il y a zéro risque à mettre
zéro
en ligne.
Zéro risque pour l'artisan.
Aucun.
D'accord, donc ils n'ont que des avantages.
Que des avantages, voilà exactement.
Et donc c'est Obi Street qui prend les risques?
C'est Obi Street qui prend les risques. Après, c'est pour ça que c'est un modèle qui est pensé pour de l'échelle nationale, en effet, comme toutes les marketplaces comme ça. Donc, on l'a testé sans développer notre plateforme à la mano, moi, pendant un an en Lozère. Et aujourd'hui, on développe notre plateforme. Tout est automatisé. Et Obi Street prend les risques parce qu'on vise de la grande échelle. Comme tu le disais, on vise du national d'ici un mois et demi.
Et donc, du coup, il faut aller chercher les commerçants au niveau national.
C'est ça.
En fait, c'est un gros travail de...
Par téléphone.
Alors, le recrutement se fait par... Alors, on tient au contact, on tient à la rencontre. Donc, en fait, le recrutement se fait beaucoup par emailing ou des réseaux de professionnels qu'on avait déjà sur la Lozère qui ont fait passer à leur réseau, des choses comme ça. Et après, on regroupe les artisans commerçants par ville et on les rencontre. Voilà, on essaye de faire comme ça. Parce que nous, on a besoin aussi, sous forme de petits événementiels, de leur expliquer qu'est-ce que c'est l'atelier parfait, comment est-ce qu'on le crée. Nous, on a plein de choses à leur donner à ces artisans. On a plein de choses à leur apprendre, voilà.
Est-ce qu'il y a une dimension territoriale? Parce qu'effectivement, on imagine que ça peut être compliqué si vous en avez un à Caen, un à Strasbourg, un à Marseille et...
Il y a une dimension
et Bordeaux, ça va être compliqué. Et puis surtout, en termes de lisibilité du client, de l'usager qui va faire l'atelier, j'imagine qu'il faut...
Ça. Donc là, vous êtes combien aujourd'hui à...
On est trois dans l'équipe. Alban et Ganaël. Pas encore. Ça ne devrait pas tarder, mais pas encore.
Donc au bout d'un an, vous ne sortez pas encore des salaires?
Au bout d'un an, de test.
De test, d'accord.
Voilà. Mmh. Là,
pas
l'entreprise...
de fonctionnement direct.
Voilà, d'accord. C'est ça. L'entreprise démarre vraiment dans un mois et demi.
D'accord, c'est la date est fixée
Non, pas encore. C'est du développement technique, vous savez, le développement technique. Comment dire? On nous dit ça prendra 3 mois, et puis en fait, 6 mois après, on y est encore dedans.
Mais bon, au bout d'un moment, il faut y...
Non,
faut
dans un mois et demi, fin...
Pour Noël, ça peut être sympa.
Avant Noël. Et pour en revenir à la question donc, du territorial, en effet, la stratégie, c'est pas d'être partout en même temps. Aucun intérêt pour nous en termes de lisibilité, sinon on va se fondre
c'est
dans
compliqué.
La masse. Voilà. La plateforme sera ouverte au national parce que si jamais un professionnel a envie de s'inscrire et qu'il est à Calais, il faut qu'il puisse s'inscrire, tout simplement, d'un point de vue commercial. Mm-hmm. Par contre, nous, on vise, en termes de clients, de démarchage, Montpellier, Paris et la Lozère. Voilà.
D'accord.
On avait adoré le fait de garder, d'avoir la Lozère et Paris. Et voilà. Et donc, ça reste comme ça. C'est les trois villes qui vont sortir dans un mois et demi.
Alors, et si moi, j'ai envie d'apprendre à faire des macarons, comment je tombe sur Obi Street? Parce qu'en même temps, comme ça, là, spontanément, alors, en tout cas, c'était vrai jusqu'à il y a moins d'une heure. Maintenant, je sais, mais comment je
maintenant,
je
tout le monde sait.
Voilà. Maintenant,
si vous avez envie d'apprendre, le réflexe, c'est Obi Street.
Voilà. Mais comment vous allez vous faire connaître? Parce qu'en même temps, sur Internet mondial, vous n'êtes pas tout seul.
Non.
Et donc, il y a effectivement la question du référencement, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on vous trouve?
Alors, il y a quelque chose qui est très avantageux pour nous, c'est quand nos pros sont des pros qui sont sur le terrain et qui ont des magasins. Dans nos outils, qu'on leur met à disposition pour communiquer sur les ateliers, il y a des flyers qui ramènent vers Obi Street. Déjà, les pros sont eux-mêmes prescripteurs de leurs ateliers et donc forcément prescripteurs d'Obi Street. Et donc, ça nous permet à nous de récupérer la clientèle qui passe dans ces magasins-là. Déjà, première chose. Après, les relations presse. Et évidemment, toutes les stratégies marketing, réseaux sociaux et compagnie qui sont très, très importantes pour nous quand on joue dans le numérique, qui sont incontournables. Stratégie de contenu, blog, etc. Et l'événementiel, qu'on garde pour les pros. Et même, on va sûrement organiser des petits événements pour le grand public à thème un peu partout. Voilà.
D'accord, bah c'est riche, c'est prometteur en tout cas. Ouais. Vous n'avez pas peur de la concurrence parce que c'est un système ouvert du coup.
Ah ben bien sûr, mais comme n'importe quel marché dans lequel on se lance.
Parce que ça, c'est pas un modèle que vous avez déposé ou breveté, non ?
On ne peut pas déposer une idée de toute façon, on ne peut pas protéger une idée, un concept. Si jamais demain quelqu'un a envie de faire exactement la même chose, il fera exactement la même chose.
Et donc il n'y a pas la notion d'exclusivité avec le commerçant ou l'artisan avec qui vous travaillez ?
Si, bien sûr que si. On met en place
une forme de protection.
Bien sûr, voilà, c'est une forme de protection. Après, j'en reviens du coup à faire le lien avec la Lozère. C'est aussi un très gros avantage de lancer un projet comme ça en Lozère parce que personne ne vient nous chercher. Il faut être honnête, hein, personne ne vient regarder vraiment quelle start-up se monte chez nous.
Ils ont tort.
Pour s'essayer, c'est parfait. Et
pour
ils
s'essayer,
tort,
en plus,
que...
c'est parfait.
Non, non, mais demain, c'est la Lozère.
Nous, on connaît très bien nos concurrents parisiens, mais je ne suis pas sûre qu'eux nous aient identifiés typiquement.
Ouais,
voilà. Parce que les canaux par lesquels ils recherchent ne les amènent pas forcément à la Lozère. Et en plus, en effet, comme tu disais, pour s'essayer à un projet, c'est juste un écosystème parfait.
C'est sûr.
Voilà. Proximité,
venez créer vos entreprises, les essayer en Lozère, déposer votre siège social, et après vous inondez le monde. Hein, c'est ça.
The world.
C'est exactement ça.
Mais tout part de cette Lozère, c'est étonnant.
Et de 48 FM.
Et bien sûr, de 48 FM.
Au moment où il faut conclure, Nico, parce qu'on va se faire engueuler.
Oui, tout à fait. Cette émission va être un petit peu longue. Non, elle n'est pas longue. Il y a tellement de choses à dire sur tout ce que vous faites, c'est du bonheur, parce que du bonheur dans le pré aussi, mais c'est quand même du bonheur.
Oh là là. Rien ne nous sera épargné pour ce 104e mag qui touche à sa fin.
En même temps, on a besoin de ces mags qu'on a créés il y a deux ans maintenant. Voilà, qui remplissent bien leur mission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite, d'explorer de nouveaux chantiers, d'y arriver dans vos tentatives et dans vos entreprises, de créer aussi de l'emploi, parce que c'est important en France. Et on vous souhaite une très belle continuation. Et on dit à nos auditeurs, dans 15 jours, c'est ça ?
C'est clair.
Voilà, on peut le réécouter en podcast ou en rediffusion cette semaine et la semaine prochaine. Merci à
lâchez
tous.
Lâchez-vous et lâchez rien.
Merci.
Merci.
Merci, au revoir.
FM.